10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des engagés sur Beurre FM jusqu'à midi avec ma team Zora à la réalisation, Loupineda et Fodil Belhamri, mes deux journalistes qui m'accompagnent tout au long de l'émission. Nous allons aborder des sujets d'actualité, des sujets de débat, toujours dans l'écoute et le respect, avec un programme riche encore aujourd'hui. Fodil, on va attaquer d'emblée avec quel sujet dans les engagés ?
Eh bien mon cher Karim, la semaine a été riche en actualités dont le programme des engagés. Nous aurions pu retenir le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II hier, la crise de l'énergie ou encore la conférence de presse du président de la République, Emmanuel Macron, qui appelle à la réduction de la consommation dans le pays. Mais ce qui a retenu notre attention au final cette semaine, c'est la politique accablante de Pékin à l'égard des Ouïghours au moment où le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a publié le 31 août dernier un rapport dans lequel il évoque de possibles crimes contre l'humanité et appelle la communauté internationale à agir. La question que nous nous posons aujourd'hui, pourquoi la communauté internationale n'agit pas contre la répression des Ouïghours en Chine, mon cher Karim ?
Un vrai sujet, un sujet qui nous tient à cœur sur Beurre FM, parce que c'est aussi dans notre ADN d'évoquer les injustices, les discriminations. Et ce qui nous semble aujourd'hui totalement aberrant et scandaleux, c'est que la communauté internationale semble assez indifférente, effectivement. Alors, en deuxième sujet, dans le débat des engagés pour la deuxième heure, qu'est-ce qu'on va aborder, Fodil ?
Eh bien, nous allons traiter un sujet récurrent qui est au cœur de l'actualité chaque semaine, c'est l'insécurité en France. Face à l'explosion des plaintes pour violence, le gouvernement d'Elisabeth Borne s'empare du sujet de la sécurité face à une société de plus en plus fracturée. La question que nous nous posons avec nos invités aujourd'hui, l'insécurité est-elle un sentiment ou une réalité dans notre pays ?
Un sujet de politique internationale, un sujet de politique intérieure, deux débats passionnants dans les engagés aujourd'hui. Lou Pineda, bonjour Lou.
Bonjour Karim, bonjour.
Ça va,
tout
va bien ? Tu es en forme ?
Super, bien sûr.
Alors sur la question des Ouïghours, tu nous donnes un peu le contexte Lou ?
Alors écoutez Karim, c'est très simple. Depuis environ 5 ans, près d'un million de Ouïghours, ethnie musulmane de la région du Xinjiang en Chine, sont harcelés, opprimés, enfermés dans des camps surveillés par les autorités chinoises. Pour justifier cet enfermement, le Parti communiste a expliqué que ces personnes étaient incarcérées dans des camps de formation professionnelle. En juillet 2020, grâce à des témoignages accablants qui choquent la communauté internationale, 22 pays, dont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, signent une lettre envoyée à l'ONU pour dénoncer la situation. Ces pays appellent Pékin à s'abstenir de toute détention arbitraire et restriction à la liberté de mouvement des Ouïghours. En janvier 2022, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, notre Assemblée nationale adopte une résolution à la quasi-unanimité dénonçant le génocide de cette communauté par la Chine. Ce mercredi 31 août, après des années d'attente, l'ONU a publié un rapport choc sur les violations des droits de l'homme au Xinjiang en dépit des pressions de Pékin. Le rapport indique qu'il y a de graves violations des droits humains et juge que les nombreuses accusations de torture et de violences sexuelles sont crédibles dans cette région qui nécessite une attention urgente de la part de la communauté internationale. Cette nouvelle prise de position va donc d'elle inciter Pékin à modifier sa politique sur cette situation. On en débat tout de suite, Karim, avec votre invité. Et je rappelle à tous nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler dès maintenant et participer à ce débat en composant le 01 53 48 00.
Merci Lou, effectivement, ce débat c'est aussi le vôtre. 01 53 48 3000. N'hésitez pas à composer le numéro de Beurre FM pour venir nous dire ce que vous en pensez. Alors nous avons un invité de marque encore aujourd'hui pour vous. C'est par respect aussi pour nos auditeurs que nous avons des invités de ce niveau, j'ai envie de dire. Marc Julienne, vous êtes chercheur et responsable des activités Chine à l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Vous avez aussi élaboré une thèse qui intègre la question des Ouïghours. Bonjour Marc Julienne. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de Beurre FM aujourd'hui en direct. Et j'ai envie de vous poser la question d'entrée de l'historique de cette question des Ouïghours. Ça a débuté quand ? Ça concerne un peuple, une partie de la Chine ? Combien de personnes sont concernées par ces atrocités ? Et ensuite, on ira un petit peu plus loin parce que nous, on est assez scandalisés sur Beurre FM sur une forme d'indifférence de la communauté internationale. Alors, il y a des résolutions, je vais y arriver, par-ci, il y a des prises de parole par-là, mais ça reste quand même un peu faible comme mobilisation. Expliquez-nous alors, cette genèse, les Ouïghours, c'est qui, c'est quoi, c'est où ?
Un peuple qui peuple majoritairement ce qui s'appelle aujourd'hui la région autonome ouïghour du Xinjiang, donc c'est dans le nord-ouest chinois, dans les confins de ouest de la Chine, à la frontière avec l'Asie centrale. Cette région du Xinjiang est frontalière avec à la fois la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et même l'Afghanistan et une partie de l'Inde. C'est un peuple très ancien qui est de culture turcique, donc en fait très proche des Turcs et qui parle une langue proches du turc, donc qui sont turcophones et majoritairement de religion musulmane. Alors, ils vivent dans la région depuis plusieurs siècles et c'est à partir du 18e siècle, on était sous l'empire, l'empire sino-manchou en Chine, que cette région a été conquise, colonisée par l'Empire chinois. Alors au milieu du 18e siècle, parce que c'est pas très bien passé, et c'est à la fin, en 1884, que l'Empire a véritablement mis la main sur cette région et l'a intégrée à l'Empire chinois. Et donc depuis, cette région fait partie de l'Empire, et puis maintenant, ce qui est la République, d'abord la République de Chine, début du 20e siècle, et puis maintenant la République populaire de Chine, la République communiste. Et donc depuis le 18e siècle, en réalité, le peuple ouïghour, et pas que les ouïghours en réalité, parce qu'au Xinjiang, il y a une myriade de minorités ethniques dans cette région.
Et mais les Ouïghours sont majoritaires dans cette région ?
Les Ouïghours sont très majoritaires.
C'est combien de personnes le peuple Ouïghour ?
Aujourd'hui, on est autour de 11 millions de personnes, ce qui représente à peu près la moitié de la population du Xinjiang, qui est autour de 21 millions de personnes. Mais je vais revenir là-dessus, parce que justement, la dimension démographique, je pense, est assez importante, puisqu'elle a évolué très vite ces dernières décennies. Et donc, les relations entre ces minorités ethniques et les Ouïghours en particulier, depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, leur relation avec le pouvoir central aujourd'hui à Pékin, les autorités chinoises, donc on va peut-être parler aussi de leur minorité, on les appelle les Han, H-A-N, c'est la majorité ethnique présente en Chine. Et donc ces relations entre ces minorités et le pouvoir central chinois ont toujours été extrêmement tumultueuses, voire extrêmement conflictuelles, avec un certain nombre d'insurrections, de révoltes et de répressions de l'autre côté. Donc on a en fait plus de deux siècles d'histoire très
de tensions, de conflits, d'affrontements
persistantes. Et là, le président actuel et secrétaire général du Parti communiste en Chine, Xi Jinping, s'est probablement donné comme mission d'être, pas que sur le Xinjiang d'ailleurs, hein, sur Hong Kong, sur Taïwan, sur d'autres sujets, s'est donné pour mission en fait d'être l'homme providentiel de la Chine qui va régler justement les problèmes. Et sa méthode à lui, c'est
la répression,
la force, la répression et la brutalité. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. Puis après, on peut revenir un peu plus en détail sur ce qui s'est passé.
La question démographique, Marc-Julienne, donnons un peu des ordres de grandeur. Vous nous avez dit 10-11 millions de Ouïghours dans cette région de Chine. Combien sont concernés par l'oppression aujourd'hui ? Parce qu'on parle d'un million de personnes qui ont été internées dans des camps. Vous confirmez ce chiffre, vous, le chercheur ?
C'est très difficile d'avoir des chiffres. On a des estimations et ces estimations, moi, je ne veux pas les confirmer. En tout cas, je veux dire qu'elles sont extrêmement crédibles. Un million, c'est même la fourchette basse, puisque si on compte toutes les personnes qui sont actuellement présentes dans des camps de rééducation ou qui y sont passées, puisque certains y ont passé quelques mois ou en sont ressortis en tout cas. Donc, si on additionne toutes ces personnes-là, on peut arriver à plusieurs millions. Certains spécialistes parlent de 3 millions de personnes. Donc, c'est crédible. Après, votre question était combien de personnes sont concernées par l'oppression ? Ben, toutes, puisque ce n'est pas une campagne qui vise des personnes, des individus de manière spécifique. Ça vise une culture, une religion et un peuple pour le fait qu'il soit justement pour son ethnicité. Donc en réalité, aujourd'hui, tous les Ouïghours, mais pas que les Ouïghours, les Kazakhs, les Kirghizes, les Mongols, etc., sont tous concernés par ce système de surveillance qui est omniprésent, qui souhaite être même omniscient dans la région du Xinjiang. Et aujourd'hui, tout le monde est pas forcément dans les camps de rééducation, mais qui peut être dans des centres de formation professionnelle faire juste l'objet d'une surveillance permanente, y compris dans la rue, la surveillance, les contrôles d'identité, les scans des téléphones portables, etc., etc. Donc cette surveillance est omniprésente.
Cette oppression, répression, elle est liée à la religion des Ouïghours principalement ?
Alors,
Oui, religion musulmane, on le rappelle.
Oui, religion musulmane, probablement, c'est probablement pas le seul facteur, mais je préciserai quand même que de toute façon, les religions, de manière générale, sont dans le collimateur du président Xi Jinping actuellement, puisque même les chrétiens, par exemple, sont réprimés. Alors évidemment, pas du tout dans la même mesure que les musulmans. Donc, alors et puis en plus, il y a plusieurs minorités musulmanes différentes en Chine, mais on va peut-être pas entrer dans ce niveau de détail. En tout cas, certes, le fait qu'ils soient musulmans joue, puisque le Parti communiste est fondamentalement athée, et donc pendant sous Mao Zedong par exemple, les religions étaient purement et simplement interdites. Donc maintenant c'est quelque chose sur lequel le Parti communiste est revenu, mais il y a de toute façon voilà un sentiment plutôt négatif à l'égard de toute religion et en particulier l'islam. Mais c'est aussi en fait une question ethnique, puisque le régime chinois, je parle pas des Chinois, mais le régime politique chinois est ce qu'on peut appeler ethno-nationaliste, c'est-à-dire qu'il considère que la nation chinoise, c'est la nation qui repose sur l'ethnie Han, la majorité ethnique. Et donc, il y a officiellement 56 minorités ethniques en Chine. Donc, c'est énorme. Et elles sont reconnues officiellement par les autorités politiques. En réalité, elles sont reconnues, mais je dirais plus qu'elles sont tolérées. C'est-à-dire que ça fait partie du folklore, de l'histoire de la Chine d'avoir intégré différentes minorités. Mais il n'en reste pas moins que la culture chinoise repose sur la nation. Et la nation, ce sont les Han.
Cette répression ignoble que vivent et que subissent les Ouïghours aujourd'hui, elle est documentée, on a des éléments. Donnez-nous, j'allais dire, un peu les sources. On parle de camps d'internement, on parle de, j'allais dire, de stérilisation quasiment des femmes. Il y a des bafouements aux droits de l'homme, aux droits humains les plus, je dirais, les plus profonds, les plus basiques. Donc aujourd'hui, ces éléments, ils ressortent de quoi? D'enquêtes, d'investigations? Que disent les Chinois face à ces éléments? Comment ils expliquent cette répression? Quel est leur argumentaire pour, j'allais dire, justifier l'injustifiable? C'est parce que c'est j'ai envie de dire, c'est indéfendable, ça.
Alors oui, vous avez raison de revenir sur ce point qui est fondamental, puisqu'il persiste, alors de moins en moins, mais il persiste quand même un débat, même en France, alors ils sont extrêmement minoritaires, mais de gens qui justement contestent, remettent en question la réalité justement de ces violations des droits de l'homme, et les Chinois, les autorités chinoises elles-mêmes disent qu'il s'agit d'un complot anti-occidental organisé par les États-Unis et par la CIA. Donc il est important justement de revenir sur les fondements, qu'est-ce que l'on sait et comment on le sait. En tant que chercheur, justement, c'est quelque chose qui est très important de revenir à quelles sont les sources. Alors, en fait, elles sont très diverses, très variées et très nombreuses, ces sources-là. On peut commencer par les images satellites. Donc, en fait, on a vu et on voit l'évolution. En fait, on a vu la construction de ces camps de rééducation à partir de 2017. Et quand les Chinois nous disent que ce sont des centres de formation professionnelle, alors si c'est le cas, c'est des centres de formation professionnelle qui sont entourés de murs d'enceinte de 10 mètres de haut avec des barbelés et des miradors. Donc, voilà, un spécialiste, par exemple, d'architecture carcérale peut évidemment tout de suite valider le fait.
Mais ce sont des prisons, ce sont des camps d'internement.
Voilà, et donc en fait, on a vu, ne serait-ce qu'il est tout à fait possible, par exemple, de mesurer la superficie de ces prisons à travers l'ensemble du Xinjiang. J'ai oublié de préciser que le Xinjiang, c'est une région qui est immense. Elle fait à peu près 2,5 fois la France en termes de superficie. Et donc, on a des centaines, on a découvert, mis à jour par des images satellites, des centaines de camps flambant neufs, ou alors des prisons dont la superficie a été étendue, multipliée par 2 ou par 3. Et donc ça, en fait, il a été possible de le mesurer très précisément, voire même de faire des estimations de la capacité de ces établissements à accueillir le nombre de personnes qu'elles pourraient accueillir. Donc c'est une source déjà très importante, les images satellites. Après, on a eu beaucoup de témoignages, des dizaines, des centaines de témoignages, à la fois de rescapés de ces camps-là, notamment Madame Haïti Wadji, qui vit aujourd'hui en France et qui a écrit un ouvrage sur cette question-là, mais aussi elle a été victime, elle était prisonnière, mais il y a aussi eu des gardiens, y compris des officiers de police en fait, qui ont témoigné, ou des personnes qui étaient là pour justement rééduquer idéologiquement, qui ont réussi à quitter ces camps et puis surtout à quitter la Chine ensuite. Donc on a beaucoup de témoignages et puis
donc, images satellites, témoignages de gens détenus, témoignages de policiers repentis. Donc c'est nourri tout ça, c'est documenté, c'est archivé. D'ailleurs, on va y revenir après une page de pub, Marc-Julien, parce qu'on va avoir une journaliste, Laurence Defranou, avec nous, qui a écrit un livre, Les Ouïghours, histoire d'un peuple sacrifié. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Restez avec nous et composez le 01 53 48 3000 si vous voulez effectivement donner votre avis, témoigner, vous insurger contre ce que vivent les Ouïghours, parce que c'est un pur scandale.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour dans les engagés pour poursuivre le débat sur les Ouïghours, le sort de ce peuple ouïghour qui est complètement opprimé de manière scandaleuse par la Chine. Donc on va poursuivre le débat avec une journaliste, Laurence Defranoux, qui est avec nous en ligne, qui est journaliste à Libération et qui sort un livre, je crois, aujourd'hui ou dans ces prochains jours, qui s'intitule « Les Ouïghours, histoire d'un peuple sacrifié » aux éditions Talendet. Bonjour Laurence Defranoux.
Bonjour.
On est heureux de vous avoir parce que effectivement votre livre est tout chaud et il vient de sortir, je crois. D'ailleurs, il est sorti hier, non ?
Oui, voilà, c'est ça, il est sorti hier.
Avec une préface de Raphaël Glucksmann, qui est député européen, qui s'est beaucoup mobilisé pour la cause ouïghour.
Oui, oui, oui.
Alors, dites-nous un petit peu. Vous avez enquêté, vous avez recueilli des témoignages. Quel est votre regard aujourd'hui sur ce que subit ce peuple ?
Alors, moi, en fait, je suis journaliste à Libération, je m'occupe de l'Asie, et je suis allée, quand j'étais jeune, étudiante, sac au dos, je suis allée au Xinjiang dès les années 90, et c'est là que j'ai connu pour la première fois la région et le peuple ouïghour. Et dans le cadre de mon travail, j'ai toujours suivi la question ouïghour, et plus particulièrement, évidemment, depuis 2017, quand on a commencé à apprendre l'intensité de la répression et la construction des camps. Et j'ai écrit un livre pour raconter tout ça, de la partie historique. Marc Julien a fait un excellent exposé sur l'explication du peuple. Je voulais revenir sur quelques points qui sont vraiment très importants, notamment la surveillance, pour essayer de faire comprendre aux auditeurs ce que vivent les gens aujourd'hui au Xinjiang.
Allez-y.
Par exemple, la surveillance, elle est totale. Elle est totale et elle utilise à la fois les outils traditionnels d'un état policier, à la fois les outils du 21e siècle. Absolument tout est surveillé. Vous avez, les Ouïghours sont obligés d'aller à des visites médicales où on leur prend leur sang, leur iris, leur empreinte vocale, leur empreinte, tout ce qu'il y a. Tout ça arrive dans des bases de données policières qui sont immenses.
Là, on parle des 11 millions de Ouïghours, hein. On est bien d'accord, Laurence
Defranoux.
Oui,
voilà, 11 millions de personnes. Voilà. Absolument toute leur vie, jusqu'au moindre détail, est surveillée. Il y a un programme qui s'appelle Devenir famille, où il y a un million de fonctionnaires, chinois, qui vont dans les familles Ouïghours, alors en général une semaine par mois, et ils s'installent dans les familles, et ils les surveillent, ils dorment dans leur... Je sais que ça va paraître fou, hein, mais on a des preuves de tout ça. On a des centaines de milliers de fichiers.
Ils dorment chez les gens,
rapports, etc. Ils s'installent chez les gens et ils surveillent tout. La religion est un point particulièrement sensible pour l'identité des Ouïghours. Donc, comme le but du gouvernement chinois est d'éradiquer totalement l'identité Ouïghour pour éviter tout risque de séparatisme, d'indépendance ou même juste d'opposition au pouvoir absolu du Parti communiste chinois. Il s'attache particulièrement à la religion. Donc les espions, les fonctionnaires qui s'installent chez les gens, par exemple, ils vont revenir du marché et dire « Ah, j'ai acheté de la viande, je vais faire à manger ». Et ils notent si la personne va répondre, va demander « Est-ce que c'est du porc ? De quelle viande il s'agit ?» Parce que si oui, ça veut dire qu'ils ont un attachement à la religion et que donc ils sont extrémistes et que donc ils sont un danger.
Donc c'est la religion particulièrement qui est ciblée quand même.
Alors la religion, elle est ciblée comme... C'est-à-dire que c'est toute la civilisation ouïghour, toute la culture. Par exemple, les Ouïghours ont une grande culture artistique. Ils ont beaucoup de poètes, de musiciens. Ils ont un grand sens de la fête très développé. Beaucoup de solidarité. Donc, tout cela est ciblé. La solidarité, la poésie, l'art, la musique, etc. Et la religion également.
Donc on veut éradiquer le peuple ouïghour du côté de la Chine.
Voilà. Et donc si aujourd'hui... et ça, c'est dans les fichiers de la police. Hein. Il y a des centaines de milliers de fichiers qui ont fuité. Et on voit tout à fait pourquoi les gens sont envoyés en camp ou en prison. Quand on dit en prison, c'est 15 ans, 20 ans. C'est parce que ils ont appelé leur enfant Mohamed, parce qu'ils avaient un Coran chez eux, parce que comme l'intelligence artificielle permet de surveiller toutes les communications téléphoniques, les navigations sur Internet, etc., des gens, moi je connais des Ouïghours dont la famille est partie en camp parce que la famille avait envoyé des vœux pour l'Aïd. Ça suffit.
Non mais on est dans la folie là, Laurence Defranoux, c'est l'enfer sur terre pour les Ouïghours.
Et aujourd'hui, plus aucun Ouïghour de France qui habite en France et qui veut envoyer un message à sa famille, il sait que s'il écrit Salam alaikum, donc la salutation traditionnelle qu'utilisent les Ouïghours, ça peut envoyer une heure après sa famille va être convoquée au commissariat, on va lui demander pourquoi vous avez une salutation musulmane, c'est quoi. Donc c'est une surveillance, mais qui est inouïe en fait.
Laurence Defranou, comme il faut qu'on avance dans les débats, j'ai une question à vous poser, poser à Marc Julien aussi également. Comment vous expliquez cette forme, nous on la qualifie un peu d'indifférence, la réaction de la communauté internationale, même s'il y a une résolution et un rapport de l'ONU là qui est sorti le 31 août dernier, on trouve que c'est quand même pas très vigoureux les réactions, et aussi et notamment du côté des pays musulmans. Donc comment vous expliquez cette forme, je dirais, d'inertie, d'immobilisme, de non-réaction face à ce que subissent les Ouïghours? Ce que vous nous expliquez, c'est une horreur absolue.
Oui, c'est une horreur absolue, et l'indifférence est une horreur absolue aussi. C'est-à-dire que même si là il y a un rapport de l'ONU qui est sorti, mais ce qui est dans le rapport, on le sait depuis 2018, c'est prouvé depuis 2018. Donc cette non-action et cette indifférence, elles ont plusieurs causes. Déjà parce qu'il y a eu une énorme campagne de la Chine pour faire passer des Ouïghours pour des terroristes. C'est-à-dire qu'à partir du... Ils avaient déjà commencé la répression contre le peuple dans les années 90, mais à l'époque c'était pour séparatisme. À partir de 2001, ils ont utilisé l'image très... Ils ont collé en fait à tous les Ouïghours, à tout le peuple, une image de terroriste. Et donc ils sont sous couvert de la grande campagne antiterrorisme mondiale, ils ont réussi à faire passer la répression, leur répression domestique pour leurs propres citoyens, pour une lutte antiterroriste. Pour cela, ils se sont appuyés sur des attaques ou des... Il y a eu quelques attentats au Xinjiang, il y a eu aussi beaucoup de rébellions, mais en fait, toutes les rébellions ont été... qui étaient des rébellions sociales, ont été labellisées comme des attentats terroristes, des musulmans, islamistes, extrémistes. Comme personne ne connaît cet endroit qui est en plein cœur de l'Asie centrale, comme c'est en Chine, c'est à 3000 km de Pékin, donc c'est très loin, la Chine est très grande, il y a une ignorance totale sur ce qui se passe là-bas, et par paresse, beaucoup de gens ont gobé cette histoire de...
On va demander à Marc Julien... Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de cette indifférence? Nous disions hors antenne, parce qu'il n'y a pas de secret pour nos auditeurs de Beurre FM, que vous étiez, vous, quand même assez stupéfait de la réaction des pays musulmans. On aurait pu penser à une solidarité, quand même. On a un peuple qui est de confession musulmane, qui est totalement opprimé. Bon, l'Europe ne réagit pas, mais ça, on a bien compris que quand ça se passait en Europe, on était sensible. Quand ça se passe à l'étranger, on ne l'est pas. On ne voulait pas accueillir des Syriens. Par contre, les Ukrainiens, ils ont les mêmes voitures que nous. On nous a dit à la télé, donc il faut les accueillir. On marche sur la tête. Donc, les États-Unis, bon, on connaît leur position, ils nous ont fait croire qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, ils ont complètement déstabilisé cette partie du monde, ils ont créé le chaos, mais ils se prennent encore pour les gendarmes du monde. Donc, et du côté des pays africains, c'est quand même très timide, mais les pays musulmans, quand même, c'est un peu honteux ce silence. Comment on l'explique, Marc ?
Alors, je suis pas finalement si surpris de ce silence, puisque dans la répression mondiale contre les musulmans, finalement, beaucoup de pays musulmans sont les premiers finalement à réprimer leur propre population. Et il faut pas. Beaucoup d'observateurs ont pointé du doigt en fait les intérêts économiques de ces pays-là, qui ont beaucoup de commerce, qui exportent beaucoup de matières premières, etc., vers la Chine. C'est sans doute un point qui est important, qui doit être pris en compte dans l'équation. Mais c'est aussi qu'il y a une convergence, une connivence politique très forte entre des pays extrêmement autoritaire. Je pense à l'Arabie Saoudite, l'Iran, même l'Irak qui finalement a soutenu, le Qatar qui à un moment a soutenu, puis après qui a arrêté de soutenir justement probablement en raison de son image internationale. Mais c'est en fait des pays qui s'accordent avec la Chine sur le fait que les affaires intérieures sont les affaires intérieures.
Donc le business passe avant les droits de l'homme.
Plus que le business. Là, je vais beaucoup plus que le business. C'est-à-dire que ce sont des pays autoritaires qui s'accordent sur le fait que le droit international ne doit pas régir ce qui se passe à l'intérieur des États.
Pas d'ingérence.
Pas d'ingérence, mais même quand, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un traité international que la Chine a ratifié, que beaucoup de pays ont ratifié, et normalement, on est censé le respecter à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle interne des États. Et ces pays-là s'accordent, et c'est pas que les pays musulmans, hein, c'est aussi la Biélorussie, la Russie, le Zimbabwe, beaucoup de pays, voilà, à travers le monde, le Venezuela aussi, qui ont des beaucoup de divergences par ailleurs politiquement, mais qui là-dessus s'accordent sur le fait que ce qui se passe dans notre pays ne regarde personne. Et on peut faire les pires horreurs dans notre pays, ça ne regarde pas la communauté internationale, ça ne regarde pas le reste du monde.
Mais ils n'ont pas à être fiers de ce comportement, moi je vous le dis, hein. C'est quand même assez honteux, parce que là on a quand même des éléments, vous avez parlé des images satellites, on a des témoignages, on a des camps d'internement, des femmes stérilisées, des enfants qui sont maltraités, c'est de la folie ce que vive le peuple ouïghour, donc qui est une forme d'indifférence, d'inaction comme ça. C'est honteux.
C'est peut-être aussi l'absence d'image qui fait que, comme le disait Laurence de Franou, on ne connaît pas ce peuple-là. Maintenant, un petit peu, hein, parce qu'il y a eu justement du travail de libération de beaucoup de médias à travers le monde, d'enquête journalistique.
Oh, c'est documenté aujourd'hui, on ne peut plus dire que ça n'existe
oui,
pas.
Aujourd'hui, oui, mais il y a encore quelques années, cette région n'était pas connue, ce peuple n'était pas connu, et surtout qu'on a très peu d'images. Enfin, je parlais d'images satellites, mais on a très peu d'images de ce qui se passe réellement, justement parce que le contrôle, l'appareil de sécurité totale mis en place au Xinjiang est inviolable, quoi.
Avant de prendre Anan, une auditrice de Beurre FM qui nous a appelé, qui a composé le 01 53 48 3000, on va vous prendre Anan dans un instant, on va prendre Jean-Guillaume Lozato. Jean-Guillaume Lozato, c'est un essayiste et auteur du livre Free Ouïghour, Liberté Ouïghour. Jean-Guillaume Lozato, quand je l'ai eu pour préparer l'émission, il m'a dit, les Ouïghours, c'est un peuple musulman, ils souffrent, c'est une évidence, c'est scandaleux, mais il y a aussi des chrétiens et des juifs qui sont persécutés, c'est un peu ce que vous disiez, Marc-Julienne, même s'ils sont minoritaires, il faut en parler, parce qu'on ne peut pas passer sous silence aussi le fait que des chrétiens et des juifs soient opprimés par la Chine. Jean-Guillaume Lozato, bonjour.
Oui, bonjour Karim, et merci pour votre sollicitation. Bonjour messieurs, dames, et puis avant toute chose, félicitations pour la sortie de son livre à Madame Laurence de Franou, parce que je crois que plus on sera de gens à dénoncer ça, et mieux ce sera. Voilà, donc
merci,
je crois que vous
beaucoup.
Avez bien résumé... ce que je vous avais dit hors antenne, voilà.
Alors dites-nous, les chrétiens, les juifs qui sont aussi opprimés, il faut qu'on en parle. Il n'est pas question d'avoir une indignation à géométrie variable. Ce n'est pas notre position à Beurre FM. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'aujourd'hui, il y a une indifférence de la communauté internationale face à ce que vivent les peuples opprimés. Aujourd'hui, c'est le peuple ouïghour. On pourrait dire le peuple yéménite, on pourrait parler du peuple palestinien. Nous, ça nous insurge tout ça, vous comprenez ?
Eh bien, je le comprends tout à fait, surtout que, alors je crois que l'expression va peut-être être un petit peu forte, mais les Ouïghours représentent peut-être une dernière occasion d'emprunter la voie vers un certain œcuménisme. Je m'explique. Étant donné que, voilà, c'est un problème qui est international et qui se passe en Chine, où il y a une vraie subjectivité d'État, un racisme institutionnalisé aussi, je dirais, donc c'est l'occasion, je dirais, pour les chrétiens, les musulmans, les juifs et même les agnostiques, les athées, de peut-être pour une fois tous se donner la main et agir contre ce phénomène. Parce que si ça prend de l'ampleur, si on accepte ça en plein 21e siècle, la prochaine fois ce sera quoi ? Alors pour rebondir, Karim, sur ce que vous veniez de dire, effectivement, en Chine, il y a aussi des persécutions envers des chrétiens et les Ouïghours contre des chrétiens parmi eux. J'en ai même interviewé un qui est chirurgien de formation, qui est exilé à Londres et qui avait assisté à la réunion de l'ETAC en ma compagnie avec Raphaël Glucksmann et donc Madame Fiorella Luna pour dénoncer le trafic d'organes. Il y a aussi quelques animistes, quelques chamanistes, ça c'est l'héritage je dirais turco-mongol chez les Ouïghours. Et bon, en dehors du Xinjiang ou du Turkestan oriental, il y a 5 millions de catholiques et quelque chose comme 23 millions de protestants dans toute la Chine. Et il y a 1000 juifs. Et dans la ville de Cathay, ou Qingfeng, écoutez, maintenant les juifs, heureusement, ont l'appui de certaines associations israéliennes pour vivre à peu près tranquillement, mais bon, ils sont quand même obligés de graver sur la stèle de la synagogue que le confucianisme inspire le judaïsme ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus bien. Quant aux chrétiens, il y a quand même eu en 2018 la destruction d'une église vraiment au patrimoine architectural très intéressant qui avait été dénoncé par une association américaine qui s'appelle China Aid. Et je crois que c'était dans la ville de Linfen, mais ça c'est à vérifier.
Merci Jean-Guillaume, en tout cas votre témoignage était très important. Donc vous avez écrit un livre Free Ouïghour, je le rappelle, donc vous êtes essayiste. Merci, à bientôt Jean-Guillaume.
Merci beaucoup, au revoir.
Alors c'est important parce que nous, encore une fois, on prône la fraternité, Marc-Julien, ici. Donc, et on n'a pas d'indignation sélective. Les Juifs qui sont persécutés, mais ils sont soutenus par des associations israéliennes. Donc on voit bien quand même qu'il y a des mobilisations au gré des sensibilités et qu'il y a certains pays qui soutiennent leur diaspora. Et puis il y en a d'autres qui sont indifférents, on l'a dit. Alors on va donner la parole à Anan très vite, donc pendant une petite minute. Donc Anan, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à vous, Monsieur Karim Zerebi. Ma question, en fait, j'ai une question, c'est que nous, à notre niveau, à notre bas niveau, que pourrons-nous faire contre Goliath? Parce que concrètement, on a affaire à un État qui est si puissant, commercialement parlant, économiquement parlant, et au niveau de son, je veux dire, ne serait-ce que de sa population. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien sûr. Très bonne question, Anan. Anan, merci de votre fidélité à Beurre FM et à l'émission Les Engagés. On va poser la question à Marc-Julien. Belle journée à vous, Anan.
Merci, à vous aussi.
Au revoir. Marc-Julien, c'est un ogre, la Chine. Avant qu'on se quitte quelques instants pour une page de pub, dites-nous, c'est aussi le poids économique de la Chine, la place sur le plan géopolitique de la Chine qui fait que tout le monde est frileux, que tout le monde reste sur la réserve?
Alors c'est sûr que c'est premièrement aux États et pour ce qui nous concerne l'Union européenne qui devrait agir. Et donc, à titre individuel, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, peut-être en parler, faire pression justement sur nos représentants. Le Parlement, d'ailleurs, l'Assemblée nationale a voté une résolution en janvier dernier, en janvier 2022, sur la question des Ouïghours et sur le caractère génocidaire. Ça, c'est justement grâce à une opinion publique, à une sensibilisation, je pense, de l'opinion publique, grâce aussi, je le disais, à des médias, dont le journal Libération, pour essayer d'informer justement la population. Il y a aussi des possibilités de boycotter, par exemple, certains produits. On n'a pas encore évoqué la question du travail forcé, justement, des Ouïghours dans la région du Xinjiang et dans le reste de la Chine. Il y a aujourd'hui des boycotts qui s'organisent. Il y a une organisation qui s'appelle Éthique sur l'étiquette, justement, qui travaille là-dessus, pas que sur les Ouïghours, mais sur justement comment acheter des vêtements qui ne soient pas du coton issu de travail forcé ou de choses comme ça. Mais je pense que effectivement, à titre individuel, on est quand même relativement impuissant, et c'est vraiment à nos responsables politiques de d'agir. Et les parlements, la différence quand même la prise de conscience émerge, alors malheureusement progressivement et même lentement, mais en tout cas elle arrive. Et là on a vu, il y a au moins une dizaine de parlements à travers l'Union européenne, mais aussi au Canada, aux États-Unis.
Oui, mais il faut couper les relations commerciales. On prend des embargos quand on veut contre certains pays. À un moment donné, on s'est coupé de l'Iran. Là, on s'occupe de la Russie parce qu'ils envahissent l'Ukraine. Et on s'occupe pas de la Chine. Donc, encore une fois, c'est des politiques à géométrie variable. Une petite page de pub, on revient dans quelques instants. On continue le débat, les amis.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour dans Les Engagés pour poursuivre et terminer. Malheureusement, ça passe tel un TGV, cette émission. Donc, le sujet des Ouïghours, l'oppression des Ouïghours. On a en ligne une députée de La République En Marche qui s'appelle maintenant Renaissance, le groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, Prisca Thévenot, qui a été, avant d'être députée, porte-parole du parti La République En Marche, donc qui est très investie sur ces questions. Moi, je connais sa sensibilité à Prisca Thévenot et je sais qu'elle est sensible à la question des Ouïghours. Prisca, bonjour.
Bonjour Karim, bonjour à tous.
Alors Prisca, en janvier 2022, janvier dernier, une résolution qui n'est pas contraignante, certes, avait malgré tout été prise par l'Assemblée nationale, par une initiative du groupe de la majorité présidentielle. Cette résolution, elle matérialisait le caractère génocidaire de ce que subissaient et vivaient les Ouïghours. Donc c'est une résolution, certes, elle n'est pas contraignante, mais il y a quand même un acte qui a été posé par notre Assemblée nationale et une majorité de nos députés. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Vous avez envie de prendre une initiative supplémentaire, d'aller un peu au-delà? Pourquoi pas de prendre aussi des mesures, même si c'est un ogre la Chine, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, nous, la France et les Français, à ce que vive le peuple Ouïghour?
Et vous avez effectivement raison, Karim, c'est que ce sujet, nous devons nous en saisir. Nous devons nous en saisir diplomatiquement, parce que avoir une voix diplomatique et une voix française singulière sur le sujet est important, et l'honneur est défendre les valeurs de la France. Mais avant de parler effectivement de cette résolution de 2022, moi j'aimerais revenir aussi sur la parole du président de la République, Emmanuel Macron, en décembre 2020, qui avait déjà ouvertement, officiellement, condamné les pratiques du régime envers la communauté ouïghour. De façon plus concrète, et au-delà de cette résolution que vous avez déjà citée, sur laquelle je ne vais pas revenir, puisque vous l'aviez très bien résumé, il y a aussi des actes très concrets qui ont été adoptés dès le mois de juin dernier. Ces actes ont été votés au Parlement européen. Et j'insiste sur ça. Parce que oui, la position de la France est connue. Elle a été adoptée par la représentation nationale au Parlement. Mais il y a aussi une démarche européenne qui doit pouvoir être entendue. Parce qu'effectivement, face à un géant, il faut aussi une voix importante et forte. Celle du Parlement européen, quelle est-elle? C'est une résolution qui a été votée donc le 9 juin exactement, qui condamne les crimes contre l'humanité envers cette minorité musulmane en Chine et qui préconise d'interdire l'importation de marchandises fabriquées dans les camps de travail où ils sont internés.
Alors c'est voilà une préconisation, Prisca, mais concrètement, au-delà de la préconisation, au-delà de l'indignation, qui est un premier acte qui est posé, hein, donc on ne va pas être plus royaliste que le roi, mais aujourd'hui, l'Union européenne, 500 millions d'habitants sur notre continent, on fait du business avec d'autres continents. On ne peut pas être un peu plus sévère, un peu plus rigide, un peu plus exigeant avec la Chine sur cette question des Ouïghours?
Mais vous avez raison, donc c'est pour ça que j'insiste. Ce n'est pas qu'une préconisation. Je veux dire que ça n'a jamais été fait jusque-là. C'est quand même assez important. Ça a des conséquences. Et je pense qu'il faut devoir le souligner. Pour le coup, après, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on continue à aller plus loin. Mais là, je viens de vous parler d'une résolution qui a été adoptée en juin dernier. Mais si on remonte aussi à 2020, l'Union européenne avait aussi adopté plusieurs séries de sanctions contre des dignitaires chinois. Alors, on n'a peut-être pas parlé beaucoup à l'époque, mais là, du coup, j'en profite. Et je profite de votre antenne et du sujet que vous ouvrez pour en parler. C'est une sanction contre les dignitaires chinois qui étaient impliqués dans le génocide des Ouïghours, avec des sanctions telles que gel des avoirs, interdiction de visa, etc. Voilà ce que ça veut dire. Je ne dis pas que tout est beau, tout est génial et qu'on a suffisamment fait que maintenant on lève les mains et on regarde ailleurs. Pas du tout. Il faut continuer à avancer sur ces sujets. Il faut continuer à en parler. Mais moi aussi, j'aimerais aussi qu'on soit très clair. C'est que c'est sur ces sujets. Il faut qu'aussi le Parlement, la représentation nationale, parle d'une seule voix.
Prisca, est-ce que vous avez envie, en tant que parlementaire, vous êtes élu député aujourd'hui, depuis juin dernier, de porter encore ce sujet, de sensibiliser le Parlement, vos collègues et les groupes d'opposition? Vous nous dites aujourd'hui que vous allez quand même remettre ça sur la table?
Écoutez, de toute façon, tant que ces conditions existeront, nous ne lâcherons pas.
Merci, Prisca.
Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi, et je le dis de façon très claire, il faut que le Parlement français parle d'une seule voix sur ce sujet.
Oui, je sais pourquoi vous dites ça. On va le dire d'ailleurs. Parce que lorsque cette résolution, en janvier 2022, a été proposée par la majorité présidentielle et votée, je crois, à plus de 165 parlementaires, il y a eu deux abstentions émanant de députés de la France insoumise. Oui, on va le dire. Oui, Jean-Luc Mélenchon s'est abstenu. Et on est nombreux à ne pas comprendre pourquoi. Et il y a même un député de la majorité qui a voté contre, parce qu'il était président du groupe d'amitié France-Chine. Mais je vais vous dire, quand on a des amis ou quand on se prête à amis, on se dit les choses en face. On ne se cache pas derrière son petit doigt. Donc s'il faut dire aux Chinois, c'est inacceptable, c'est scandaleux, c'est honteux ce que vous faites subir au peuple ouïghour, il faut le leur dire. La voix de la France, c'est aussi ça. Merci Prisca. Merci. Belle continuation à vous. À très vite.
Au revoir.
Au revoir. Alors on va prendre Nabil. Nabil qui va nous donner une réaction. Allez, une minute. Nabil, bonjour.
Bonjour. Moi, je vous appelle en fait parce que franchement, je suis sidéré. Je suis même choqué que personne ne bouge concernant les Ouïghours. Franchement, ça fait des années on en parle. On voit ça également sur les chaînes télé, que ça soit CNews, sur BFM TV, mais ça ne bouge pas. Donc moi, j'aimerais savoir. On peut pas faire confiance à nos politiciens qui ne bougeront jamais. On le sait. Donc faudrait-il pas un lobby musulman? Voilà. Parce que on sait très bien que si les politiciens ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas financés pour leur campagne, eh ben ils n'auront rien du tout. Ils seront pas élus.
Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez, Nabil?
Un lobby musulman.
Un lobby musulman. Mais Nabil. Quand il y a une communauté, quelle qu'elle soit, qui subit l'ignominie, on ne doit pas attendre que ce soit simplement les semblables à cette communauté qui s'insurgent et qui s'indignent. Moi, un juif, quand un chrétien souffre, Nabil, dans le monde, moi, je suis scandalisé. Quand un musulman souffre, je suis scandalisé de la même manière. N'attendons pas que les uns défendent que ceux qui leur ressemblent. C'est pas ça notre conception des valeurs, Nabil.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais vous voyez, vous faites un constat comme moi, monsieur. Vous faites votre émission aujourd'hui sur ce sujet. C'est que ça ne bouge pas.
Oui, mais regardez, les pays musulmans sont les derniers à bouger, Nabil. Donc de quel lobby vous me parlez? Arrêtons, c'est le lobby des humains qu'il faut défendre aujourd'hui. Il faut porter le lobby des droits de l'homme, le lobby de la fraternité. C'est ça notre défi, mon cher Nabil.
Mais on sait que c'est faux, ça n'existe pas. Comment ça concerne
l'histoire
des musulmans, la cause des musulmans, ça n'existe pas. C'est malheureux, on le voit, ça fait des années, en tant que musulmans, nous le constatons. C'est que quand c'est une question sur les musulmans, il n'y a rien.
Nabil, votre témoignage est important et je vous remercie d'avoir composé le 01 53 48 3000 pour vous exprimer. Nous sommes sur la liberté d'expression totale, mais nous sommes aussi sur un débat et on se dit les choses. C'est l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui persécute le peuple yéménite qui est musulman 95%, mon cher Nabil. Donc vous voyez bien ne bouge pour la cause palestinienne. Vous voyez bien le peuple ouïghour, les peuples musulmans sont les derniers à bouger, mon cher Nabil. Cher Nabil, continuez d'être fidèle à Beur FM. On va poursuivre ce débat. Merci à vous en tout cas. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Alors, mon cher Marc Julien, c'est un débat qui est houleux, qui est sensible, qui crée des émotions et c'est normal parce que nous sommes touchés au cœur, parce que vit le peuple ouïghour. Si on devait résumer en 30 secondes, qu'est-ce que vous nous diriez sur cette question? On peut aujourd'hui inverser la donne où ce peuple ouïghour va encore subir pendant des décennies?
Oui, c'est une question très difficile, la question des leviers dont on dispose, nous, pays, communauté internationale, Union européenne, pour essayer de faire bouger la Chine. En tout cas, donc, de manière assez pessimiste, je vais commencer pessimiste, mais je vais terminer avec un peu d'optimiste. Le droit international est fait de telle sorte qu'on ne peut pas juste aller en Chine et ouvrir les camps, on ne peut pas juste envoyer de force une enquête indépendante de l'ONU, il faut que que les Chinois nous autorisent. Maintenant, de manière optimiste, on voit que le rapport de force se resserre, on voit que le rapport de l'ONU qui est sorti le 31 août est
vous êtes optimiste.
L'ONU endosse.
Vous y croyez? On a envie d'y croire aussi. On lance la page de pub et on revient dans un instant.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beur FM.
De retour dans les engagés. Effectivement, ce sujet des Ouïghours, il est sensible. Hein. Le nombre d'appels que nous avons est important. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde, mais nous y reviendrons. Hein. Soyez certains que ce sujet qui ne nous laisse pas indifférents, que nous trouvons vraiment à traiter encore et toujours, parce que si les médias ne le font pas, nous on le fera sur Beur FM, on n'a pas de sujet tabou, on n'a pas d'a priori, on n'a pas d'indignation sélective ou à géométrie variable, donc nous reparlerons de ce peuple ouïghour qui subit des atrocités. On est sur notre rubrique du jour de la semaine qui s'appelle le Conseil citoyen.
Le Conseil citoyen.
Ouh. Le Conseil citoyen, Lou. Cette semaine va concerner un sujet très sensible. Quel est-il?
Absolument, Karim. Comme chaque semaine, nous sommes en ligne avec Maître Hervé Seroussi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du barreau de Marseille. Aujourd'hui, et en ce début d'année, il va nous parler de harcèlement scolaire. Alors, comment l'identifier? À qui en parler? Que peut faire la justice pour vous? On en parle tout de suite.
Maître Seroussi, bonjour Maître. Comment allez-vous? Il est avec nous, Maître Seroussi?
Merci.
Ah, on est heureux de vous avoir comme chaque semaine, Maître. Alors, on aborde un sujet qui est très sensible, qui inquiète à la fois les parents, le personnel scolaire et qui touche de très nombreux enfants. C'est le harcèlement. Maître, comment on peut définir le harcèlement? Est-ce qu'il existe une loi pour protéger nos enfants? Dites-nous en quelques mots, quel est ce sujet du harcèlement?
Bien sûr, Karim. Mais finalement, si vous voulez, c'est très nouveau tout ça, hein, puisque c'est la loi du 2 mars 2022, donc il y a à peine quelques mois, qui finalement va instaurer en France un délit, d'accord, un nouveau délit pénal d'harcèlement scolaire. Alors, le contour de cette loi, c'est important de le comprendre, c'est un agissement qui doit porter atteinte à la dignité de l'élève, qui doit altérer la santé mentale ou physique de cet élève et dégrader ses conditions d'apprentissage. Voilà, la loi aujourd'hui est claire, c'est une loi qui est récente, c'est important de comprendre dans quel système on se situe. Aujourd'hui, il y a un nouveau délit pénal avec des sanctions dont on va reparler, mais finalement, si vous voulez, c'est caractéristique. Il faut, pour que le harcèlement soit constitué, qu'il y ait une violence physique ou morale exercée sur l'élève, il faut qu'il y ait une répétitivité de l'action, et il faut que finalement, l'élève qui est harcelé, finalement, ce qu'on appelle une phobie scolaire, soit isolé totalement, soit isolé au sein de la classe, au sein même de l'activité extrascolaire. C'est ce que la loi de mars 2022 prévoit pour déterminer qu'est-ce que l'harcèlement scolaire.
Maître Hervé Serroussi, concrètement, il y a des parents qui nous écoutent et qui sont peut-être touchés par cette question concernant leur enfant. S'ils sont confrontés, s'il y a des parents qui sont confrontés au harcèlement, vers qui peuvent se tourner? Que peuvent-ils faire? C'est quoi les premières préconisations que vous indiqueriez?
Alors, la marche à suivre, Karim, est très simple. La première chose, c'est qu'il faut impérativement avertir la direction d'établissement, d'accord? C'est une obligation que de le faire, et puis le directeur d'établissement va avoir lui-même à son tour une obligation, sans quoi il va directement engager sa propre responsabilité. Son obligation, ça va être d'avertir le procureur de la République, qui lui, derrière, va enquêter. Donc la première chose à faire, c'est d'avertir la direction d'établissement. La seconde chose à faire, dans la foulée, c'est d'aller déposer plainte, soit auprès d'un service de police, soit de gendarmerie, soit entre les mains d'un avocat qui le fera en lieu et place.
Donc première chose à faire, on dépose plainte. On va voir le proviseur,
le chef d'établissement, on dépose plainte.
Très bien. Finalement, quand on se dit harcèlement scolaire, les parents, s'ils déposent plainte, si derrière on arrive à mettre la main sur le harceleur, qu'est-ce qui se passe en termes de sanctions pour les harceleurs? Il y a une forme de laxisme encore, d'impunité, ou la loi elle est sévère?
Si vous voulez, Karim, le principe même de l'application de la loi, c'est la sanction. Hein. Là, la sanction, en l'occurrence, on n'y est pas allé de main morte. On a la plus petite sanction qui, dans le cadre des plus petits harcèlements, ça va être la confiscation de l'ordinateur ou du portable qui a servi à harceler ou à cyberharceler la victime.
Mais j'espère qu'on ne s'en tient pas là, maître. C'est rien du tout, ça.
Évidemment. Vous rendez compte ? Pour ce qui est le petit harcèlement. Mais la loi va prévoir trois catégories de sanctions en fonction, finalement, du dommage que l'harcèlement va causer. On part sur 3 ans, 5 ans, voire 10 ans d'emprisonnement en cas de suicide ou tentative de suicide de la personne qui a été harcelée. Donc on est sur des peines qui sont relativement lourdes et avec une amende qui peut aller jusqu'à 150 000 euros d'amende. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans un jeu. Le harcèlement, c'est véritablement puni. Il faut le dénoncer, il faut faire en sorte que les enfants puissent avoir une quiétude à l'école. Et cette loi de mars 2022, à mon sens, est une bonne loi. Elle a vocation à s'appliquer. Tout le monde est concerné. Et il faut aujourd'hui ne pas hésiter à dénoncer lorsqu'il faut le faire.
Merci, maître Serroussi, pour ce conseil citoyen de la semaine très important. Les parents qui nous écoutent, si vous voyez des comportements inhabituels chez vos enfants, chez vos gamins, chez vos minots, comme on dit à Marseille, n'hésitez pas, interrogez-les, posez-leur des questions, faites preuve de pédagogie et surtout, allez voir l'enseignant pour lui demander si là aussi, le gamin, il est un peu replié sur lui-même. Merci, maître. Belle continuation à vous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci.
Au revoir. Alors, chers amis, on poursuit notre émission Désengagés avec un deuxième débat, vous le savez, et le débat Désengagés cette semaine.
Le débat Désengagés
porte sur l'insécurité. Alors, l'insécurité, nous, on a envie de traiter ce sujet de manière un peu différente des médias traditionnels. On se pose la question, là encore une fois, est-ce que c'est un sentiment, l'insécurité, ou est-ce que c'est une réalité? Si vous êtes touché par des questions d'insécurité, si vous estimez que notre société est de plus en plus violente, appelez-nous, composez le 01 53 48 3000, témoignez, dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous estimez que c'est un fonds de commerce politique pour instrumentaliser les consciences, dites-le nous aussi. C'est la liberté d'expression totale dans les engagés. Alors, si on pose le débat de l'insécurité, ma chère Lou, qu'est-ce qu'on peut dire?
Eh bien Karim, on peut dire évidemment et surtout préciser que c'est encore un sujet qui préoccupe énormément les Français. En effet, il semble important de rappeler quelques chiffres, ceux du ministère de l'Intérieur, qui indiquent une forte hausse, voire une explosion des violences envers les personnes. Vols, violences sexuelles, coups et blessures, cambriolages, homicides. Une baisse malgré tout des vols dans les véhicules et des dégradations, mais il n'en demeure pas moins que l'inquiétude reste forte au niveau du gouvernement. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, présentera d'ailleurs très prochainement à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'investissement des moyens alloués à la police nationale avec une augmentation des effectifs et une modernisation des moyens. Ce sujet, Karim, est donc plus que d'actualité et il s'inscrira d'ailleurs dans la durée, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Avec vos invités d'aujourd'hui, nous vous posons donc cette question. L'insécurité est-elle un sentiment ou une réalité dans notre pays? Le débat est ouvert et comme Karim vous l'a rappelé, appelez-nous au 01 53 48 3000.
Merci Lou, comme d'habitude, allez. Parfaite, Lou. Elle nous a posé le cadre du débat avec les éléments majeurs. Alors, on a deux invités toujours de marque, toujours référent sur nos sujets. Jean-Michel Fauvert, qui est l'ancien patron du RAID, vous savez ce que c'est le RAID ? C'est ce corps d'intervention spécialisé d'élite qui a été créé par la police nationale. Donc il a été aussi ancien député, puisqu'il était député sur le dernier mandat, Jean-Michel Fauvert, de La République En Marche, et il est rapporteur de la loi Sécurité Globale. Donc on a l'expert des experts présent avec nous sur le plateau de Beurre FM. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Karim.
Très heureux de vous avoir. On sait effectivement que ces sujets vous tiennent particulièrement à cœur. Vous avez passé votre vie à défendre les Français, donc investi sur les questions de sécurité, et vous avez poursuivi après votre carrière de fonctionnaire de police, de haut fonctionnaire de police, en tant que parlementaire, rapporteur de la loi Sécurité Globale. On va en parler avec vous très rapidement. Moussa qui est un représentant associatif d'un quartier de Seine-Saint-Denis. Je voulais qu'il y ait un habitant des quartiers, quelqu'un qui est né dans les quartiers, qui a la légitimité aussi pour en parler. C'est toujours pareil, dans les médias on parle des quartiers populaires qu'on qualifie de sensibles, sans les habitants des quartiers, sans les acteurs associatifs des quartiers, comme si on savait tout. Non, les éditorialistes ne savent pas tout. Il faut parler aussi aux habitants, à ceux qui vivent la vraie vie. Bonjour Moussa.
Bonjour Karim.
Très content de vous avoir sur le plateau Moussa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Michel Fauvergue, si on pose la question de l'insécurité, nous vous avez vu, on pose une question qui n'est pas du tout provocatrice, mais on dit, est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une réalité ? Que disent les chiffres, les statistiques, selon vous ? Est-ce qu'on a vraiment une flambée de l'insécurité dans le pays ou c'est plutôt assez stable et on en parle plus ?
Alors, je vais vous surprendre, Karim, mais l'insécurité dans le chiffre brut baisse. Elle baisse en France depuis assez régulièrement. La problématique, c'est que c'est dans le chiffre brut. Par contre, il y a des items importants qui augmentent de manière très importante. Les violences faites à l'autorité, les violences faites aux gens d'une manière générale. Les violences intrafamiliales qui augmentent de 30% avec les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. Et puis, une augmentation qui est très préoccupante, de plus de 30%, mais qui va sans doute se poursuivre, c'est la cyberdélinquance. Alors, la cyberdélinquance, personne n'en parle aujourd'hui, sauf qu'elle va être très développée dans la loi que vous avez annoncée, Lou, la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui va consacrer sur le numérique 8 milliards d'euros sur les 15 milliards d'euros en 5 ans. La cyber...
C'est énorme.
Mais oui, mais...
Plus de la moitié va être sur la cyber...
Alors, sur le numérique, hein. Pas que sur la cyber, c'est-à-dire l'équipement en numérique à la fois de la police, de la gendarmerie, etc., plus la lutte contre la cyber avec des recrutements de personnes spécialisées. Pourquoi ? Parce que la cyber, tout le monde y est confronté aujourd'hui. Les administrations, il y a des attaques massives, on l'a vu avec les attaques sur les hôpitaux dernièrement. Non seulement les administrations, mais aussi les entreprises qui subissent un chantage. Comme ça s'est fait récemment à l'hôpital, mais ça se fait sur les entreprises, un chantage sur les données qui sont captées et par les citoyens. Moi, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait des citoyens qui me parlent du fait qu'ils soient cyberharcelés. Sur vous
c'est devez... quoi cyberharcelé, eh ben, piraté.
Quand vous, par exemple, vous recevez sur votre mail une accusation comme quoi vous êtes poursuivi pour pédophilie, ça arrive tout le temps maintenant. C'est pour vous hameçonner,
rentrer dans votre portable,
de manière à ce que vous puissiez un certain moment donner un certain nombre de données qui vont ensuite participer de l'escroquerie qu'on va faire sur vos comptes, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Bon, c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire à combattre.
Non, c'est pas le seul débat d'aujourd'hui, mais ça fait partie du débat, Jean-Michel, parce que comme vous le dites, les gens le subissent.
Oui.
Et il y a un piratage, on rentre dans votre ordi, dans votre téléphone portable, après on vous escroque et on va chercher votre carte bleue, puis on vide votre compte bancaire, et il y a des pauvres gens qui n'ont pas besoin de ça et qui ont déjà des fins de mois difficiles. Donc, mais si je reprends vos propos, vous dites globalement, l'insécurité n'augmente pas, les chiffres montrent plutôt une baisse, si on a une approche globale, et si on rentre un peu dans le dur, il y a quand même l'augmentation des violences aux personnes et des violences faites aux femmes.
Oui, tout à fait, violences faites aux femmes et aux enfants.
Voilà. Mais alors, avant que Moussa, acteur de terrain, nous donne un peu son sentiment sur cette augmentation des violences, les violences faites aux femmes, si elles augmentent statistiquement, est-ce que c'est pas parce qu'on a mieux formé les fonctionnaires de police et parce que ces derniers prennent des plaintes qu'ils ne prenaient pas avant? Aujourd'hui, avant, ils disaient, mais c'est pas la peine, madame, de porter plainte. Il y aura pas de suite. Ou alors, ils disaient, mais posez une main courante. Aujourd'hui, ils prennent la plainte, ils sont formés, ils accueillent dans les commissariats.
Oui, mais c'est une bonne chose. Effectivement, vous avez raison, Karim, ça vient aussi en grosse partie de ça. C'est libération de la parole, et ça vient aussi d'un deuxième phénomène que peu de gens développent, c'est que quand vous aujourd'hui la police ou la gendarmerie interpelle, et il y a une procédure de fait sous l'autorité des magistrats sur une personne qui a fait ce type de violence, en général ils arrivent à remonter un certain nombre de violences que la même personne a faites sur plusieurs victimes, et donc les statistiques sont gonflées comme ça, de cette manière là parce que derrière il y a des faits qui sont élucidés, et le nombre de faits élucidés, c'est-à-dire le job correct que fait la police et la gendarmerie, participe de cette augmentation des statistiques et donc de
d'accord, cette donc ceci explique cela. Bon, on rappelle quand même à nos auditeurs, mais surtout à nos auditrices, si vous êtes victime de violence, vous n'hésitez pas, hein, n'acceptez pas les victimes, hein. C'est scandaleux, c'est honteux. Donc on ne porte pas la main sur une femme, on n'insulte pas une femme, et on ne se laisse pas faire quand on est une femme. On est dans une société qui ne peut pas accepter ça. Donc déposez plainte, battez-vous, donc prenez des avocats, et faites en sorte effectivement que le délinquant, l'horrible comportement envers les femmes soit aujourd'hui condamné. Moussa, quand on dit augmentation des violences, Moussa, je rappelle, acteur associatif d'un quartier de Saint-Denis, qui est né dans les banlieues, qui a grandi, qui aujourd'hui y exerce son métier. Donc là, on a quelqu'un, on ne peut pas raconter d'histoire, hein, les quartiers, il connaît. Hein. Donc Moussa, vous sentez-vous une augmentation dans les comportements de violence, d'irrespect, d'incivisme?
Alors en fait, oui et non. Parce que, déjà pour commencer, les générations, elles ont changé. C'est plus les mêmes. Avant, souvent, il y avait beaucoup de respect des anciens, c'est-à-dire c'est une génération. La génération, c'est la génération qui commence 70, qui s'arrête à, allez, 89. Après 89, on est dans l'irrespect. Aujourd'hui, les gamins, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est beaucoup d'histoires, beaucoup d'embrouilles inventées dans les quartiers. Et très souvent, ils sont pris à partie, on va dire, par le système, en fait. Le système, il les prend à partie, pourquoi? Parce que dès qu'il y a une petite embrouille, on en fait une grosse histoire. Ça finit par une plainte au commissariat. Or, il n'y a pas lieu de porter une plainte au commissariat. C'est là où je rejoins tout à l'heure ce qu'il disait M. Fauverbe, concernant les chiffres et les statistiques, on va dire.
Qui seraient un peu gonflés.
Voilà, qui seront un peu gonflés.
Mais malgré tout, vous dites qu'il y a une génération qui est quand même dans l'irrespect.
Ah
on
oui,
respecte depuis les anciens, on fait plus attention à son comportement.
Existe.
Ça existe, ça.
Ça existe,
on va pas se cacher dans notre petit doigt.
Ça existe, ça existe. Mais, pour moi, c'est pas une fin en soi, parce que les anciens respectent. Et c'est souvent qu'on reprend l'histoire des grands frères, des petits frères, enfin tout ce qu'on veut dire, les médiateurs socio-éducatifs, les associations, qui interviennent à ce moment-là en expliquant aux plus jeunes que c'est pas un comportement à avoir sur les quartiers, c'est pas un comportement à avoir avec sa famille, et c'est pas un comportement à avoir avec sa mère.
Mais vous, Moussa, quand vous intervenez vis-à-vis d'un jeune, il vous respecte, il entend ce que vous dites, ou il vous envoie balader de temps en temps? Dites la vérité.
Oui, non, moi, je suis beaucoup écouté quand même dans ma ville, parce que bon, ça fait longtemps que j'y travaille. J'ai d'abord travaillé dans cette ville-là avec des anciens aussi, qui, notamment Monsieur Pomard,
Bruno Pomard qui aurait dû être avec nous, qui est le président de Raid Aventure. C'est un ancien instructeur du Raid, Bruno Pomard, qui a créé cette association pour favoriser le rapprochement entre les jeunes et la police. Association qui fait un travail remarquable.
Très bien, c'est exactement ça, oui. Donc du coup, oui, nous on est beaucoup respectés dans nos quartiers, puisqu'on reste des anciens. Moi aujourd'hui, j'ai 46 ans, Bruno Pomard, je l'ai connu en 95. Mes premières actions, c'est en 95 avec Bruno Pomard, un peu partout en France, l'Île-de-France, même la Guyane d'ailleurs, à Saint-Jean, Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai beaucoup exercé avec lui, justement sur la réinsertion, la prévention, par le sport.
Et par le déplacement de compatriotes d'outre-mer, on en profite.
Voilà.
On va revenir, Moussa, sur la question des quartiers, parce que je voudrais qu'on revienne aussi sur le développement des réseaux de trafic de drogue qui a tué la vie des quartiers, qui prennent les gens, les habitants en otage, les habitants honnêtes, qui sont l'immense majorité des habitants des quartiers, qui veulent élever leurs enfants dans la tranquillité, qui aimeraient voir leurs enfants réussir, qui sont des gens qui ont des fins de mois difficiles, qui travaillent, qui se lèvent le matin. C'est ça la réalité de la vie des quartiers. Puis on a des minorités qui pourrissent la vie des majorités. Là aussi, aussi, nous on dit les choses et on va y revenir. Jean-Michel, quand on dit augmentation des violences, vous diriez que c'est partout sur tout le territoire national ou vous cibleriez ces quartiers qu'on a tendance effectivement à rendre coupables de tous les maux MAUX dans la société française. La violence aujourd'hui, elle est présente partout. Rassurez-nous, pas que dans ces quartiers. Cette jeunesse des quartiers, il y a des jeunes qui sont fantastiques, qui sont très bien.
Vous avez raison de soulever ce problème-là. On a souvent le discours. On entend souvent le discours de dire que d'abord on confond jeunes et délinquants. Il faut remettre les mots là où ils doivent être mis. Les délinquants sont des délinquants, point barre. Mais on a une jeunesse formidable et on a une population dans sa majeure partie qui respecte les règles établies. C'est pas un Far West total où il y a aucune règle qui est respectée, etc. Et vous avez des gens qui respectent les règles et qui respectent l'autorité, y compris dans les banlieues et dans les endroits.
Donc ceux qui nous expliquent c'est la guerre civile, oui, on toujours, peut plus vivre ensemble, mais bien sûr, ils fantasment.
Ça fait vendre.
Ouais, voilà,
ça fait vraiment un certain nombre de choses. Alors, il y a quand même deux choses qui ont évolué depuis l'époque où moi, jeune officier en brigade de nuit, je travaillais sur Aulnay-sous-Bois dans les années 80. Il y a quand même deux grosses choses qui ont changé. D'abord, les réseaux sociaux où les gens communiquent entre eux. Et les réseaux sociaux, c'est un bel aspect, un bon aspect, mais ça a surtout un aspect aussi absolument délétère.
Ça peut être le meilleur comme le pire, les réseaux sociaux.
Voilà, le pire des réseaux sociaux. Et aussi, vous l'avez dit, cette augmentation croissante du deal de rue et de la vente de stup. Et ça nous draine la majeure partie de la délinquance de voie publique. Et ça nous draine beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le deal de stup est arrivé à une augmentation telle que c'est un problème qui doit être pris en compte et qui doit être pris en compte urgemment.
On va y revenir. Vous avez cité Aulnay-sous-Bois. Je salue Bruno Béchiza, le maire d'Aulnay-sous-Bois, qui fait un travail remarquable, qui est un ancien fonctionnaire de police, qui est devenu maire, qui s'engage pour sa cité, qui la rénove et qui la transforme aussi. Donc, Bruno Béchiza, bonjour. Je sais qu'il écoute Beurre FM. Et on l'invitera sur notre antenne pour parler un petit peu, là aussi, des quartiers populaires, de la manière dont un maire de banlieue appréhende ces sujets. Une petite page de pub et on revient avec Jean-Michel Fauvergue et Moussa pour continuer de parler d'insécurité. Est-ce un sentiment? Est-ce une réalité? 01 53 48 3000. N'hésitez pas à témoigner. C'est votre émission.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour dans Les engagés pour poursuivre notre débat sur l'insécurité. Est-ce un sentiment ou une réalité? Ben oui, on en débat avec Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député de La République En Marche, qui a été rapporteur de la loi Sécurité Globale, avec Moussa, représentant associatif d'un quartier de Seine-Saint-Denis. Alors si on dit Moussa et qu'on dit pas le nom de famille, c'est volontaire, parce que Moussa, il est très présent sur le terrain, il a une parole libre, et c'est notre choix à nous, c'est pas son choix à lui. Donc pour garantir sa tranquillité, ben c'est Moussa, c'est son vrai prénom, et il a dans les quartiers de Seine-Saint-Denis. Il a une parole vraie. On est très heureux de l'avoir avec nous sur le plateau. Parce que moi, c'est vrai qu'habituellement, les gens issus d'immigration, des fois, on dit que le prénom, on ne dit pas le nom, comme s'ils n'avaient pas de nom de famille. Et à chaque fois, ça me saoule. Mais là, je vous explique pourquoi on dit Moussa et on ne dit pas le nom de famille. On a une mairesse très active sur le terrain de l'insécurité, de la lutte contre l'insécurité dans sa ville. C'est la mairesse de Pontoise, Stéphanie Von E, qui a vécu malheureusement cet été des moments difficiles avec les rodéos dans sa ville, mais pas seulement, qu'il y a des méfaits quotidiens comme partout. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Madame la mairesse, je ne sais pas comment vous préférez que l'on vous appelle, en tout cas je respecte toutes les appellations. Qu'est-ce que vous nous diriez sur cette question de l'insécurité dans votre ville? Vous sentez-vous que ce sont des phénomènes qui sont en augmentation, en stabilité, ou vous arrivez à les combattre ces phénomènes? C'est quoi la vie d'un maire face à l'insécurité?
Ah ben c'est j'allais dire du quotidien, et je rebondirai sur ce que vous avez très justement dit en ouvrant l'émission, ou en tout cas cette page, en parlant, est-ce qu'on parle de sentiment d'insécurité ou de réalité. Malheureusement, ce que nous avons vécu cet été, cela ne relève pas du sentiment, mais bel et bien malheureusement de la réalité. Vous l'avez rappelé, avec notamment des rodéos, qui a été le phénomène mis en lumière durant ces dernières semaines. Et pour répondre à votre question, quand on parle de sécurité, ça peut être très très vaste. Nous, ce à quoi nous sommes confrontés véritablement au quotidien, et qui a plutôt malheureusement tendance à être en expansion, ce sont justement tous ces phénomènes de délits routiers, de rodéos, de mariages également qui dégénèrent, et globalement de ce qui aurait pu relever au départ d'incivilité qui se transforme en délit. Et là-dessus, il est évident qu'il ne faut absolument pas rester inactif ou se contenter de réparer les dégâts, mais bel et bien d'intervenir le plus rapidement possible pour faire comprendre que ces délits, notamment routiers, ne sont pas des jeux, c'est pas drôle, ça peut être dangereux pour l'auteur comme évidemment pour les victimes potentielles, et qu'il est impératif que Police nationale, avec l'aide de la police municipale, et on pourra y revenir parce qu'on a quelques idées qui pourraient permettre d'améliorer la collaboration, soit sur le terrain et très réactif.
Stéphanie Vonheux, maire de Pontoise dans le 95. Donc vous, concrètement, le rôle d'un maire qui n'a pas la dimension régalienne d'un ministre de l'Intérieur, qui ne dirige pas la police nationale, vos outils à vous, c'est la police municipale, c'est les éducateurs, c'est la vidéoprotection. Qu'est-ce que vous déployez dans votre ville ?
Alors c'est tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le continuum de sécurité, hein, qui va de la prévention, bien entendu, parce que je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'incivilité, la mieux régulée, c'est celle qui n'est pas produite. Donc ça veut dire qu'il y a eu tout un phénomène de prévention. Donc ça passe par les maisons de quartier, ça passe par les clubs de prévention, ça passe par la présence de la police municipale.
Vous investissez beaucoup dans la prévention, madame le maire?
Ah oui, on a chaque quartier dispose d'une maison de quartier avec des animateurs. Alors on pourra toujours dire que c'est insuffisant. À un moment, on a aussi les moyens que les budgets municipaux nous permettent d'avoir. Mais l'objectif, c'est d'avoir un maillage territorial le plus complet possible, et puis qui est couplé d'une présence, pédestre et quotidienne de la police municipale, dont je rappelle que c'est en réalité vraiment la police de proximité, et qui a vocation d'aller au contact de la population au quotidien. Moi, je sais que très concrètement, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai exigé de la police municipale, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent, qu'elle soit en patrouille pédestre.
Très bien. Allez armer votre police
essentiellement
municipale.
En patrouille pédestre pour être justement au contact de la population. Et puis ensuite, vous le rappeliez, nous avons évidemment tout cet éventail avec le maillage en termes de caméras de vidéoprotection. Donc sur une ville comme la mienne, comme Pontoise, nous disposons de près de 160 caméras. Nous continuons de le déployer. Pour être plus efficace encore, nous sommes en train d'installer la vidéo-verbalisation. Pourquoi ? Parce que ça permet de donner davantage de temps à notre police municipale d'être présente, là encore, en patrouille pédestre, au contact de la population, et de ne plus avoir à traiter ce qui était vraiment, qui prenait énormément de temps, tout le volet verbalisation de mauvais stationnement dangereux, etc. Donc ça renforce l'efficacité sur le terrain de la police. Donc c'est vraiment ces trois volets qui sont indispensables au niveau de la ville. Et puis, et ça c'est mon rôle aussi en tant que maire, c'est de veiller à la bonne collaboration entre la police municipale et la police nationale, de manière à ce que il y ait une fluidité dans l'information et une rapidité dans la réaction.
Merci madame le maire de toutes ces informations sur votre activité, mais on voit que vous prenez ce dossier vraiment à bras le corps, que vous en faites une priorité pour les habitants de votre ville, que vous investissez sur le budget de votre municipalité et que vous travaillez en collaboration, en étroite collaboration avec les forces de police nationale. Ce sera l'occasion de vous réinviter pour nous parler de ce sujet en plateau sur Beurre FM, si vous êtes d'accord, madame le maire.
Mais avec avec grand plaisir, parce que il faut toujours tirer quelque chose de positif d'un drame ou d'un événement négatif. Et je sais, pour avoir échangé d'ailleurs à plusieurs reprises avec le ministre de l'Intérieur, on a quelques propositions, j'allais dire, de vraiment de bon sens, simples, pour améliorer cette collaboration entre police municipale et police nationale. Je vous en livre juste une. Hein. Je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais que les polices municipales, pour contacter la police nationale, sont comme n'importe quel citoyen. Elles doivent appeler le 17. Nous n'avons aucune interopérabilité entre les radios des polices nationales et polices municipales, et on voit bien que dans un certain nombre de circonstances, je l'ai vu malheureusement encore le week-end dernier, on a besoin d'une intervention extraordinairement rapide, et bien la police municipale doit appeler le 17 comme tout le monde.
Eh bien, voilà, si nous avions un
canal, voilà, si nous avions un canal partagé,
ben oui,
je peux vous garantir qu'on augmenterait considérablement l'efficacité de nos deux polices.
Merci de cette proposition très concrète, et vous en ferez d'autres lorsque vous serez avec nous en plateau. Stéphanie Van Heu, maire de Pontoise, qui prend ce sujet de l'insécurité à bras le corps et qui viendra sur l'antenne de Beurre FM faire des propositions. Belle continuation à vous, madame le maire.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Au revoir, au plaisir. Alors, on a des auditeurs de Beurre FM qui sont nombreux à nous appeler. On va prendre Fatima à Paris qui veut nous parler d'insécurité. Bonjour, Fatima.
Bonjour, monsieur Zeribi.
Fatima, vous voulez livrer un témoignage, nous dire ce que vous ressentez. L'insécurité pour vous, c'est un sentiment ou une réalité?
Tout d'abord, je voudrais préciser que c'est un plaisir de vous entendre sur Beurre FM.
Merci Fatima, c'est très gentil à vous.
Parce que je vous suivais un peu ailleurs.
Merci.
Ce que je voulais dire, c'est que l'insécurité, c'est une réalité. Il faut pas le cacher. C'est une réalité, surtout pour les femmes et les personnes âgées. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, moi j'étais dans le RER et j'ai failli être violentée. Donc, moi, je pense que la violence diminuera, ne s'arrêtera pas complètement, le jour où l'État arrête d'être la nounou des voyous.
Qu'est-ce que vous entendez par là, Fatima? Allez-y, développez.
Alors, qu'il y ait une justice sévère envers ces voyous en premier, qu'on ne trouve pas des circonstances atténuantes quand on traîne un policier sur combien de mètres ou je ne sais pas quoi. Moi, je sais qu'un policier, il m'arrête. Je suis arrêtée par un policier. Ben, je réponds à ça.
Oui, vous répondez problème. Normalement. Vous n'avez rien à vous reprocher. Bonjour, monsieur. Oui, pas de problème.
Exactement. Exactement. Monsieur. Et en plus, moi, je pense, il y a beaucoup de délinquance de mineurs. Et ben, moi, pour moi, les mineurs, c'est les parents qui doivent être. C'est eux qui doivent payer. Parce que quand on a un enfant mineur de 14 ans ou 15 ans qui fait une bêtise, moi je pense que c'est moi, mon fils, c'est moi sa responsable.
Fatima, bon, vous pointez un sujet qui est très important qu'on va aborder avec Jean-Michel Fauvergue-Moussa, c'est la responsabilité des parents, parce que mettre des enfants au monde, ça implique quelques responsabilités, effectivement. Fatima, un grand merci pour votre fidélité.
Je vous remercie, Zeribi, et bonne continuation.
Merci Fatima, restez fidèle à Beurre FM et à notre émission Les Engagés. À très vite. Merci. Alors, on revient chez messieurs sur quand même le témoignage de Fatima, il est édifiant. D'abord, elle confirme effectivement les violences faites aux femmes. Elle dit qu'elle en a subi une, donc pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Mais elle demande plus de sévérité pour les délinquants. Alors, est-ce qu'on doit juger notre justice un peu trop laxiste face aux délinquants ou pas, Jean-Michel Fauvergue?
Pour établir la sécurité, il vous faut 2 choses essentielles. D'abord, la présence sur la voie publique, policiers et d'hommes en bleu.
Il y en a assez.
Et là, je rejoins... vous savez que si vous rajoutez le nombre de policiers en France et le nombre de gendarmes avec la réserve des gendarmes, 30 000 personnes, vous êtes un des pays les plus fliqués d'Europe. Il va y en avoir d'autres de recrutés dans le cadre de la
loi. 8 500, on nous annonce.
8 500 de plus dans des missions très spécifiques, hein, une mission justement sur la lutte contre les violences faites aux femmes dans les transports en commun, etc., etc., la cyber, etc. Mais l'idée, c'est quand même de les redéployer sur le terrain, d'avoir une structuration telle que on puisse récupérer des gens qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas en train de faire leur mission principale, c'est-à-dire d'être au service de la sécurité des Français et des citoyens qui ne sont pas Français mais qui vivent sur notre territoire, et de les remettre sur le terrain.
Tiens, plus de bleu sur le terrain. Ça ressemble un peu à la police de proximité, ça,
Jean-Michel. Bien évidemment, c'est, il faut du contact sur le terrain. Alors, moi, je vous le dis, j'étais essentiellement un commissaire qui s'occupait de services plutôt répressifs, on peut pas dire. Tout dire du reste, sauf qu'il est préventif quand même, c'est assez répressif. Mais pour autant, j'ai été directeur départemental de la sécurité publique à Cayenne et je me suis occupé aussi de prévention. Il faut à la fois la prévention et la répression.
Marcher sur nos deux jambes.
Mettre plus de gens sur le terrain, c'est ce à quoi s'est engagé le ministre de l'Intérieur. Et de ce point de vue-là, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, une réponse pénale, une sanction pénale immédiate
et adaptée. Et adapté. On va y revenir. Merci Jean-Michel. Donc de ces précisions, plus de bleu sur la voie publique, ça ressemble à la police de proximité. On va demander à Moussa ce qu'il en pense après une petite page de pub. Restez fidèles aux engagés.
Les engagés, reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour dans les engagés pour la dernière ligne droite. Qu'est-ce que ça passe vite. Moi, j'aimerais être avec vous pendant encore une heure ou deux, là. On a des débats, on a des échanges, on a de l'information à vous donner. On a de bons invités. Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député de La République En Marche, rapporteur de la loi Sécurité Globale. Moussa, représentant associatif d'un quartier de Seine-Saint-Denis, né dans les quartiers, acteur associatif des quartiers. Il connaît ça par cœur. Donc, et des auditeurs qui ne cessent d'appeler. Désolé, je pourrais pas tous vous prendre, ça va très vite. Moussa, la responsabilité des parents. Fatima, notre auditrice, tout à l'heure a pointé cette question. Qu'est-ce qu'on voit dans les quartiers? Des parents dépassés, des parents démissionnaires, des parents qu'il faut accompagner, aider, ou des parents qu'il faut rappeler un peu à la règle? Parce que, comme je le disais, mettre des enfants implique quelques responsabilités. C'est quoi la réalité? C'est quoi la vraie vie, Moussa?
Ben, pour les parents, moi je dirais, comme on disait tout à l'heure, on a des parents qui sont démissionnaires.
Ça existe.
Ça existe.
Voilà.
Ça existe. Démissionnaires, très souvent, parce que il y a la difficulté de la famille, il y a la difficulté de l'éducation à la maison, il y a la difficulté aussi de l'école, hein, c'est-à-dire le cursus scolaire. Très souvent, ils arrivent à l'école, c'est compliqué. À la maison, c'est compliqué. Dehors, c'est compliqué. Mais ça joue beaucoup aussi sur la monoparentalité. On a des mamans qui vivent seules, qui sont sans mari. Oui, il y en a de plus en plus.
Oui, mais aussi, ne généralisons pas. Il y a des mamans qui arrivent à élever leurs enfants parfaitement, qui sont seules, qui travaillent, qui sont au four ou au moulin, comme on dit, et qui sont exemplaires. Donc, ne laissons pas croire que toutes les familles monoparentales sont synonymes de problèmes.
Non, en fait, je dis ça parce que le papa prenait beaucoup de place, très souvent.
L'autorité du père.
Exactement. Et quand le père n'est plus là, souvent la maman, elle est un peu démissionnaire, elle est un peu à l'abandon. Donc, justement, c'est là où elle fait appel aux services sociaux qui aident beaucoup dans ce domaine-là. Parce que, bon, moi, en tout cas, je travaille dans une association, j'ai eu beaucoup de retours des parents. Très souvent, violence faite aux femmes. Hein. Donc, on a dû régler beaucoup de problèmes aussi, sans vraiment passer par la police. Parce qu'il y a des problèmes qu'on peut régler entre nous sans vraiment passer par la police. Parce que c'est vrai, très souvent, la médiation, c'est des conflits après sur le quartier. Tout le monde au courant de ce qui se passe de famille en famille. Mais sur les parents qui sont démissionnaires, il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup.
Bon, est-ce que tu es favorable, Moussa, à la police de proximité? Parce que c'est un concept qui a existé. Nicolas Sarkozy l'a enlevé, il a supprimé des effectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dis revenir avec plus de bleus dans les quartiers, au quotidien, en patrouille, qui connaissent bien la cité, qui connaissent bien les habitants, est-ce que ça, on en a besoin?
Pour moi, je l'ai vécu. Donc, oui, complètement.
C'est positif.
Pour moi, c'est positif parce que nous, notre génération, comme je disais tout à l'heure, on a grandi avec la police de proximité. Nous, on avait un commissariat dans notre quartier qui était au rez-de-chaussée, dans un bâtiment, et ça se passait très très bien.
Voilà, quand on entend Moussa, ouais, on se dit, les habitants des quartiers, ils veulent plus de sécurité. Ils ne sont pas complices des délinquants, comme certains veulent laisser entendre. Chakib qui nous appelle dans le 94, qui veut nous parler d'insécurité. Chakib, en 30 secondes, vous avez envie de nous dire quoi?
Oui, en 30 secondes, l'émission était très intéressante. J'arrive à la fin juste pour vous dire, vous avez posé une question pour savoir si, à notre avis, l'insécurité a augmenté en France ou pas. Moi, le sentiment que j'ai, moi, je suis comme Moussa, j'ai vécu toute ma vie en banlieue. Et moi, j'ai pas l'impression qu'elle ait augmenté, mais elle s'est démocratisée. C'est-à-dire qu'avant, dans nos villes, il y avait des points chauds. Aujourd'hui, c'est un peu dans toute la ville. L'origine aura été le problème, si on veut le régler, j'ai entendu, bien sûr, plus de bleus, plus de caméras, etc. Mais pour moi, c'est une partie de la solution, mais c'est pas la solution parce que c'est symptomatique. Ça me rappelle un peu toute proportion gardée quand on est en guerre et on dit, ah ben, on n'y arrive pas, on va envoyer plus de soldats, plus d'armes, plus.
Okay. Et ça, c'est ça, quoi ça, la ça mesure qu'il faudrait prendre, Chakib, selon vous? Une mesure avant qu'on se quitte.
Une mesure, en réalité, c'est aller plus loin que la prévention, ça veut dire c'est. Et, d'ailleurs, ce serait un sujet très intéressant pour la prochaine fois, c'est la discrimination sociale qui existe dans les banlieues. En réalité, il y a des gens qui sont prisonniers dans leur cité. C'est une prison assez ouverte. Moi, quand j'étais petit, il y avait avec moi des amis dans le même groupe, des voyous et des gens très bons à l'école. De tous mes amis bons à l'école, il n'y en a pas un seul qui s'en est sorti. Parce qu'en réalité, quand on essaie de fuir ça, on n'y arrive pas. Le problème en banlieue, c'est qu'aujourd'hui, le premier recruteur de France dans les banlieues, c'est la rue. C'est ça le premier recruteur de
Chakib,
France.
Chakib, on va ouvrir un débat prochainement sur ce sujet, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Le déterminisme social, la pauvreté, donc, ne justifie pas la délinquance. Il y a des gens très pauvres qui sont très respectueux, très honnêtes, et c'est l'immense majorité. Et beaucoup trouvent leur place dans la société. Et si vous suivez les engagés, à la fin de notre émission, on a la rubrique qui s'appelle « La personnalité de la semaine ». Et c'est toujours quelqu'un issu des quartiers la plupart du temps, issu de l'immigration, que nous mettons à l'honneur pour un parcours exemplaire. Et il y en a des milliers, pour pas dire des millions, mon cher Chakib.
C'est vrai,
à bientôt, on reparlera de ce sujet, okay. Et vous serez avec nous.
Parfait.
À bientôt,
parfait.
Mon Chakib.
Avec
à bientôt.
Plaisir.
Alors, on a encore une fois cette sensation qu'il nous manque pas grand-chose, un peu plus de bleu, un peu plus de sanctions, beaucoup plus de prévention. Le mot de la fin, qu'est-ce que ça serait pour vous, Jean-Michel Fauvergue?
Le mot de la fin, c'est de effectivement que la police et gendarmerie soient plus présentes sur le terrain. Elle le sera par un système dont peu de personnes imaginent l'évolution. C'est la réserve. La réserve de la gendarmerie, la réserve de la police nationale qui va faire appel à des citoyens, et pas seulement à des anciens, mais à des citoyens, et qui vont prendre en compte eux-mêmes à un certain moment. Dans le cadre de l'institution, hein, attention, ils ne seront pas livrés eux-mêmes, qui vont prendre en compte eux-mêmes leur propre sécurité, leur propre prévention, parce qu'ils seront sous les couleurs de la police et sous les couleurs de la gendarmerie, dans les quartiers ou ailleurs, et auront le contact avec les populations.
Donc cette réserve, pour vous, c'est un atout majeur.
30 000 pour les gendarmes, 30 000 pour les policiers bientôt, 60 000 personnes comme ça, ça sera...
Ça fait du monde. Si on arrive à le déployer, effectivement, on peut rassurer nos compatriotes et nos concitoyens. Les plus honnêtes, encore une fois, l'immense majorité des quartiers. Moussa, une proposition. Si tu avais une baguette magique, si tu étais ministre de l'Intérieur, tu ferais quoi?
Ben moi, si je serais ministre de l'Intérieur, ce qui me plairait, j'aurais d'abord voulu être ministre de la ville, pour la politique de la ville.
Donc pour toi, il faut attaquer ça par la politique de la ville.
Par la politique de la ville. Première chose, revoir les budgets des communes, parce que ce qui nous permet d'avoir un résultat sur le terrain aussi, parce que la police fait son travail, mais nous aussi, on doit faire notre travail. Mais ça passe aussi par les finances.
Complémentarité, État. Merci voilà. Moussa. On va lancer, merci messieurs, c'est un débat passionnant, mais il faut prendre plus de temps, donc on y reviendra effectivement à l'avenir dans les engagés. On lance notre rubrique de la semaine qui est la...
La personnalité de la semaine.
Personnalité de la semaine, Fodil, qui est la personnalité de la semaine aujourd'hui?
Eh ben, pour notre personnalité de la semaine, je vous emmène cette fois-ci à Puteaux, en région parisienne, pour vous présenter Hakim Benhamer. Né à Alger, ses parents s'installent en région parisienne quand il avait 6 ans. Quelques années plus tard, sa famille retourne en Algérie et Hakim se retrouve sur les premières pages de sa vie. Intrépide et dynamique, il effleure la vie comme elle lui sourit. Enfant, il avait déjà des rêves plein la tête. Douane de Lens, des jours où rien ne compte à part la présence comme un guide d'une mère, d'un père, des parents câlins, complice qu'Hakim serre dans ses bras d'enfant pour montrer que cette vie qui le fascine est une bénédiction de les avoir à ses côtés. À l'âge de 10 ans, il a perdu son cousin dû à un problème cardiaque. Marqué par cette perte d'un être cher, il jura de devenir cardiologue. Ses parents le regardent grandir et évoluer. Ses années scolaires vont être illuminées de succès avant un retour en France pour continuer ses études de médecine à l'université de la Sorbonne. Au gré de beaucoup d'efforts, il décroche un diplôme universitaire d'électrocardiographie en 1984. 7 ans plus tard, il obtient un autre diplôme d'échographie cardiaque. Quelques années après, il devient membre associé de la Société française de cardiologie. Symbole de persévérance et de travail, il devient chef de clinique assistant pendant 4 ans. Un parcours atypique qui, par le travail, lui a permis d'occuper plusieurs postes dans la cardiologie en France. Il est actuellement cardiologue chef de service à l'hôpital Foch. Comme quoi, le célèbre écrivain, poète, aviateur et reporter français Antoine de Saint-Exupéry avait raison en écrivant « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Hakim Ben Ammer avait un rêve de jeunesse. Il avait fait de ce rêve une réalité, mon cher Karim.
Bonjour Hakim.
Bonjour Karim.
Quelle fierté à écouter le portrait que Fodil a dressé de vous. Cardiologue, investi dans votre métier comme jamais, né à Alger. Vous avez été décoré récemment, je crois, par Alain Menck de l'Ordre du Mérite. Franchement, vous êtes fier de votre parcours? Vos parents sont fiers de votre parcours?
Mes parents sont fiers de mon parcours. Maman, elle n'est plus là, mais mon père est très fier. Mais je suis sûr qu'elle est fière aussi de son côté. Et je crois que ce portrait très poétique qui a été fait de moi, je remercie Fodil, est une réalité. Et je pense qu'un des messages très importants qu'il y a dedans, c'est qu'il faut savoir rêver. Et une fois qu'on a rêvé, il faut avoir confiance en soi. Et après, il faut travailler. Pas décevoir. Et je pense que c'est vraiment ces éléments-là qui sont très importants.
Les gamins qui sont aujourd'hui étudiants ou qui sont en médecine, quel est le conseil que vous leur donneriez? Il faut qu'ils s'accrochent?
Absolument. Il faut qu'ils s'accrochent. Il faut qu'ils travaillent encore plus que les autres. Et puis, il faut qu'ils croient en eux. Il n'y a absolument aucune fatalité. Bien au contraire. Le fait d'être d'extraction modeste, etc. J'ai écouté ce que vous disiez juste avant. Je pense que ça ne doit pas être un handicap. Ça doit être les racines d'une énergie particulière, un petit peu revancharde, mais dans le côté positif des choses, pour aller vers le succès, aller vers ses rêves.
Aller chercher dans sa condition modeste aussi des ressources, l'ambition. Absolument. Hakim, vous êtes un exemple, vous le savez, vous êtes un exemple fabuleux pour les enfants issus d'immigration. On est fiers de vous. On est fiers que vous soyez français. On est fiers de notre pays quand on a une réussite comme la vôtre.
Merci beaucoup, Karim. C'est très, très touchant ce que vous évoquez. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui réussissent de manière admirable.
Et vous en faites partie. Vous êtes le capitaine de cette réussite-là. Merci, Hakim. Belle continuation à vous, en tout cas. Au plaisir. À bientôt.
Merci à toute l'équipe.
Merci à toutes et à tous. C'est la fin des engagés. Ça va très vite. C'est le TGV de la liberté d'expression. À vendredi prochain. Restez fidèles à notre émission.
Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.